Chapitre 4. Victor Hugo a écrit dans sa jeunesse un beau livre historique et légendaire intitulé « Le Rhin », dans lequel il fait revivre les vieilles pierres des bourgs féodaux qui mirent leurs ruines grandioses dans les flots du grand fleuve vert. Un livre qui s'intitulerait « Le Rhône » et raconterait la remontée du fleuve à petite journée, car à la descente le flot impétueux poussé par le mistral vous emporte trop vite et vous empêche de rien voir. Ce livre serait pour le moins aussi pittoresque et suggestif à écrire. Je pourrais peut-être m'en charger, mais pour cela, il faudrait refaire le voyage. Non pas que dans ce temps, mes yeux ne fussent encore ouverts à la nature, ni mes nerfs assez subtils, assez prenants pour s'accrocher aux choses, capables d'être heureux ou de souffrir par elles, car j'étais artiste déjà et sensitif comme tous les artistes. J'ai des souvenirs encore plus lointains que cela. Ainsi, près d'un demi-siècle, vous entendez, un demi-siècle, me sépare d'une fin de journée historique où, perdu par la bonne, qui sortait toujours avec moi, je dus traverser ma ville natale et rentrer seul à la fabrique du petit chose. J'avais 5 ans alors, et tout m'est resté de cet angoissant retour. La retraite militaire, dont les tambours battaient mélancoliquement au lointain, un grand feu de forge flambant dans le bleu mourant d'un crépuscule d'été, et mes petites jambes qui se hâtaient en tremblant, talonnées par la peur et par la nuit menaçante. Puis ma joie folle en apercevant les longs murs blancs de notre maison qui se profilaient tout au bout du chemin d'Avignon. Si vive, si éperdue cette joie d'enfant, que je me vois grimpant d'un bond les 3 marches de la porte d'entrée, me hissant jusqu'au heurtoir que ma petite taille pouvait à peine atteindre, et dans mon ivresse, appuyant mes lèvres avec ferveur sur le bois dur et brûlant de cette porte, comme sur un visage aimé enfin retrouvé, quand je l'avais cru perdu pour toujours. Si ma sensibilité vibrait à ce point dans ma petite enfance, il est bien singulier qu'aussi peu de choses me soient restées du merveilleux voyage sur le Rhône, accompli 8 ou 9 ans plus tard. Je puis m'expliquer cela seulement par la préoccupation où j'étais de mon rôle d'aspirant de marine, par l'abdication de ma personnalité propre au profit de celle d'un jeune midshipman de Varna. Ô mignon rempart d'Avignon, la ville sonnante, muraille géante du château des papes, toute croustillante de soleil, vieux pont légendaire de Saint-Bénézé, dont restent debout seulement 2 ou 3 arches, et vous tous, donjons effrités mirant dans le flot bleu, vos créneaux en dentelle, aires ruinées à la cime des rochers riverains, château de l'air, tour de Châteauneuf, débris moyenâgeux de la roche des Glands, comment ont pu rester inaperçues vos formes admirables? Pardonnez-moi d'avoir passé devant vous sans vous voir, ne songeant, au lieu d'éveiller les échos des belles chansons des cours d'amour ou des grands coups d'estoc endormis dans vos pierres brûlées, ne songeant qu'à imiter la démarche du vieux loup de mer aux épaules roulantes, aux jambes écartées, avec l'intonation délicieusement canaille avec laquelle mon ami Taine disait, en parlant de son métier de matelot, « Trop de bouillon pour si peu de viande !» Rien qu'en vous répétant cette phrase, m'apparaît le petit bonhomme étrangement comique que j'étais dans la peau de ce personnage improvisé, avec mes membres frêles et délicats d'enfant qui n'a pas encore quitté la maison et dont la cravate a toujours été nouée par les doigts de la maman, ce petit homme s'essayant à cracher loin, à jurer, se condamnant à une gymnastique très dangereuse, marchant sur les plats-bords du bateau, allant s'allonger sur le fer d'une grosse ancre de marine, à la pointe extrême de l'arrière, au risque de tomber à l'eau à la moindre secousse imprévue, et de se noyer infailliblement, car les remous du Rhône sont d'une violence dangereuse. « Oh, de ce monstre !» Les petits Montpellierins que j'avais retrouvés sur le pont et qui ne nous quittaient plus, Léonce et moi, étaient pour beaucoup dans mes extravagances avec leurs cris de gobe-mouche. Mais quel bon public, crédule et enthousiaste, me faisaient tous ces artilleurs, soldats du train, zouaves, lignards, chasseurs de Vincennes, groupés autour de moi sur le gaillard d'avant où nous passions nos journées, riant à toutes mes histoires, avalant mes bourdes les plus extraordinaires sans s'apercevoir qu'ils me fournissaient eux-mêmes les éléments de mes aventures, qu'ils documentaient mes mensonges. J'avais comme première mise de fond à mon petit commerce de blagues les détails fournis par le camarade Thème, une topographie suffisante de Varnin, de Gallipoli, trois ou quatre clichés sur le Bosphore et la Corne d'Or. C'était un peu court comme renseignements et couleurs locales, mais à chaque instant, je m'enrichissais dans la causerie autour de moi. « Dites donc, mon officier, me disait un artilleur âve et grelottant encore la fièvre, puisque vous étiez à Gallipoli à ces moments, vous vous êtes trouvé avec Canrobert ?»« Ah oui, Canrobert, un grand brun tout chauve. »« Mais non, un petit blond avec des moustaches blondes, avec des grands cheveux, comme il n'y a que lui qui en porte dans toute l'armée. » « Ah oui, oui, des grands cheveux, des moustaches blondes, parfaitement !» Et voilà mon répertoire enrichi d'un Canrobert superbe avec qui j'avais des conversations, de qui je tenais des confidences, je ne vous dis que cela. Ici, je dois faire un aveu. Si bien disposé que fut mon auditoire, par sa naïveté, sa simplicité naturelle, j'avais cru devoir, pareil aux plus grands comédiens, me constituer dans ce public déjà si chaud, une claque composée de quelques fanatiques auxquels je graissais la patte en dessous. Et voici comment. En quittant Beaucaire, au tout petit matin, le père ou la mère Toustin, je ne sais lequel, nous avait mis dans les mains un panier ficelé, lourd comme une bourriche, en disant « Voyez-vous, monsieur Alphonse, sur le Bonnardel, il y a bien une cuisine, et même un cuisinier, mais la cuisine est si sale, et le cuisinier si cher, que je vous engage à vous en passer le plus possible. Prenez l'heure du pain, du vin, quelque chose de chaud le matin, si vous voulez, mais pour le reste de la route, vous trouverez ici dedans tout ce qu'il vous faudra. » Et, en effet, les braves gens avaient bourré le panier de saucissons d'Arles, de boîtes de thon et d'anchois, d'olives noires ou à la picholine, avec des poivrons verts, des amandes, des figues, des passerilles, toutes ces menues friandises méridionales qui régalent un peuple plus curieux de gourmandise qu'avide de nourriture. J'appréciais comme il faut ces repas sans viande, ces hors-d'œuvre excitants et légers, mais ma vanité l'emportant sur mes goûts naturels, je préférais me faire servir au salon les abominables ratatouilles du coq. Oh, le hideux pâtissier charbonnier dont on voyait les mains noires essuyées sur les blancheurs douteuses de sa veste, semblables à cette main de Mahomet que j'avais contemplée sur les étendards des Turcs, là-bas, à Varna, à Gallipoli. À ces repas, les dames de Lyon ne refusaient jamais de prendre part. Quant aux provisions du panier, je les distribuais matin et soir sur le gaillard d'avant et m'assurais ainsi chaque jour de nouveaux amis et admirateurs, une claque fidèle, prête à souligner de rires et de bravos toutes les fantaisies les plus bizarres de mon imagination, car il ne faut pas que vous vous y trompiez, mon mensonge n'avait rien de pervers ni d'utilitaire, j'étais surtout menteur par imagination, le besoin de faire vivre et gesticuler tous mes rêves de gamin. J'avais fini par me tromper moi-même et par me figurer que j'étais cet aspirant que j'aurais tant voulu être. Du reste, ce qui doit rendre le lecteur indulgent pour mes inventions et mes fanfaronnades, c'est qu'elles ont été punies tout le temps et que pas un jour de ma traversée, qui en comprit quatre en tout, n'a fini sans que j'aie reçu quelque châtiment mérité, quelque mistoufle exemplaire. Il me revient tout juste à l'esprit quatre aventures, quatre épisodes néfastes que je vais vous raconter en toute franchise, dont je garantis l'authenticité, et qui se détachent en lumière vive sur le brouillard, sur l'obscurité lointaine de ma mémoire.